franceinter.fr.
À la une de la science, appel au don de gamètes de l'Agence de la biomédecine.
Chérie, hier j'ai entendu un message à la radio sur le don de gamètes.
Les gamètes? Mais c'est quoi?
C'est les spermatozoïdes et les ovocytes. Maintenant je sais qu'il y a des gens qui décident de donner leurs gamètes à des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ça m'a beaucoup touchée, je sais pas pourquoi.
Peut-être parce qu'on a un enfant et que tu t'es dit qu'on avait beaucoup de chance.
Extrait d'un des spots de la campagne d'appel aux dons de gamètes qui démarre donc aujourd'hui. Chaque année, près de 3500 nouveaux couples souffrant d'infertilité demandent à bénéficier d'un don de gamètes. Mais le nombre d'hommes et de femmes qui acceptent de donner leurs spermatozoïdes ou ovocytes est encore largement insuffisant. L'Agence de la biomédecine estime par exemple qu'il faudrait 3 fois plus de dons d'ovocytes pour satisfaire la demande. Elle lance donc cette campagne de sensibilisation qui va se prolonger jusqu'au 26 novembre. On en parle avec votre invitée Agnès Fèvre.
Nathalie Rive, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure au CHU de Rouen et présidente de la Fédération française des CECOS. Ce sont les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Alors en 2015, Nathalie Rive, 540 femmes ont donné leurs ovocytes, 255 hommes ont donné des spermatozoïdes. Alors ça a beau être en hausse par rapport à 2014, on a l'impression quand même que ça fait pas beaucoup.
En fait, le nombre n'est pas encore suffisant pour répondre rapidement à la demande. C'est vrai pour le don de spermatozoïdes, mais c'est encore plus vrai pour le don d'ovocytes et pour donner au couple le maximum de chances à la fin de leur démarche d'avoir une grossesse, mais surtout un enfant vivant à la maison.
Qu'est-ce qu'il faudrait idéalement pour répondre à cette demande? On a dit à environ 3500 nouveaux couples souffrant d'infertilité qui débarquent chaque année, qui demandent un don de gamètes.
Il faudrait pour le don d'ovocytes environ 3 fois plus de candidates au don pour avoir 3 fois plus de donneuses. Et pour le don de spermatozoïdes, moi je serais même un peu plus exigeante que le souhaite l'Agence de la biomédecine. Si on multipliait au moins par 1,5 le nombre de candidats au don, ça nous laisserait de plus grandes libertés, surtout de réduire les délais d'attente qui sont en moyenne de 13 mois dans le cas du don de spermatozoïdes, mais qui peuvent être de 24 mois, voire de 48 mois dans le don d'ovocytes.
Ça peut aller jusqu'à 4 ans, donc?
Oui, dans certaines structures, oui, tout à fait.
Ce qui fait que certaines femmes, enfin, ou certains couples, se tournent justement vers des pays étrangers, parfois.
Surtout pour le don d'ovocytes et très très peu pour le don de spermatozoïdes actuellement pour les couples infertiles. Mais vraiment pour le don d'ovocytes, on a un certain nombre de nos couples qui vont vers l'étranger pour une prise en charge plus rapide et aussi pour avoir le maximum de chances d'aboutir à une grossesse et une naissance.
Comment ça se fait qu'à l'étranger il y ait moins de manque, puisqu'on va à l'étranger, c'est qu'a priori là on est moins en pénurie de gamètes dans ces pays?
Les modalités de prise en charge des donneurs ou des donneuses sont différentes à l'étranger, avec des règles de fonctionnement qui ne correspondent pas à ceux de la loi de bioéthique en France. Dans certains pays, il y a une rémunération vraie de la donneuse d'ovocytes, comme en Espagne ou dans certains pays de l'Est. Et il en est de même pour les plus grandes banques de spermatozoïdes européennes qui sont au Danemark, où il y a non seulement une rémunération des donneurs, mais pas la même limitation en termes du nombre de naissances par donneur. Ce qui fait que la réponse, elle peut être plus rapide, mais pas avec les mêmes conditions de prise en charge et un coût très élevé à la charge des couples.
Agnès ?
Et en France, justement, on y réfléchit à cette incitation financière éventuellement, ou bien on se dit qu'il faut peut-être renforcer davantage la communication. Comment encourager les Français à donner davantage leurs gamètes?
En France, on est plutôt dans l'esprit de la solidarité. Donc en fait, l'idée, c'est de faire de plus en plus d'informations de façon à recruter de plus en plus de candidats. On n'est pas dans la rémunération parce qu'on est aussi avec les autres types de dons qui ne sont pas les gamètes, qui sont le sang, qui sont le don d'organes, les cellules souches hématopoïétiques, où là, le don est également gratuit. Donc c'est un peu une philosophie de fonctionnement à la française. Et on n'est pas tout à fait certain qu'en rémunérant les donneurs, on atteigne aussi la complète autonomie telle qu'on l'a souhaiterait.
Donc il faut plus communiquer, c'est ça que vous nous dites?
Plus communiquer, oui, tout à fait, de manière très régulière. Parce qu'on voit bien que dès qu'il y a une communication, on a une plus grande démarche de candidats aux dons, qu'il s'agisse d'ovocytes ou de spermatozoïdes. Alors que pendant les périodes creuses, eh bien effectivement, il y a moins de sollicitations plus possibles. Quand on veut donner, c'est parce qu'on a eu multiples informations, parce qu'on a aussi des personnes auprès de soi qui sont intéressées par cette problématique d'infertilité, et puis parce qu'on a de l'information régulière.
N'importe qui peut donner ses spermatozoïdes ou ses ovocytes?
Alors, pour être donneur de spermatozoïdes, il faut être majeur et on peut être en couple ou célibataire et on peut avoir ou ne pas avoir d'enfant. Et en tout cas, il faut être en bonne santé.
Ça a changé, ça. Il me semble qu'il fallait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il fallait avoir eu des enfants soi-même pour pouvoir faire des dons de gamètes.
Oui, il y a eu un changement, une application de la loi de bioéthique de 2011 avec les décrets, les arrêtés fin 2015 et 2016 qui font que depuis ces dates, eh bien, il est possible pour tout homme ou une femme, dès lors qu'on est majeur et en bonne santé, de pouvoir donner ses gamètes, même si on n'a pas d'enfant. Ça nous a permis, en 2016, d'avoir une affluence un peu plus importante des candidats aux dons, mais on s'est rendu compte en 2017 que cette affluence était beaucoup moindre parce qu'il y a eu, il y a peut-être eu un manque d'informations et cette campagne est là pour justement ressolliciter la solidarité de tous au niveau du don.
On dit que c'est un petit peu plus contraignant pour les femmes. Quel est le procédé exact pour donner ces ovocytes ?
Comment ça se passe ? Une fois, admettons que des auditeurs soient tentés par ce don de gamètes, comment ça se passe concrètement ?
Alors, pour une femme... pour les deux candidats au don, il y a rendez-vous de consultation au sein des centres autorisés pour ces activités. On recueille les antécédents médicaux, personnels et familiaux. On voit s'il n'y a pas de contre-indication effectivement à devenir donneur. Pour une donneuse d'ovocytes, elle aura en plus effectivement pour initier son don un traitement hormonal pour stimuler l'ovulation, une ponction des ovocytes. En général, sous courte anesthésie générale ou sous anesthésie locale. Et ensuite, eh bien, sa démarche sera accomplie. Pour le don de spermatozoïdes, il y a 7 démarches initiales de consultation et puis ensuite des recueils de spermatozoïdes qui vont être congelés. En général, la donneur de spermatozoïdes va se déplacer entre 5, 6, voire 7 fois. Une donneuse d'ovocytes, elle va avoir environ 5 ou 6 déplacements dans toute sa démarche. Donc c'est vrai que c'est un peu contraignant peut-être sur le temps. C'est plus contraignant au niveau physique pour la donneuse que le donneur de spermatozoïdes. Mais en tout cas, il y a des équipes qui sont prêtes à accueillir ces candidats et les accompagner au mieux pendant toute leur démarche.
Il va y avoir un changement dans la loi certainement en 2018. L'assistance médicale à la procréation ne sera plus cantonnée seulement aux couples hétérosexuels. Et donc ça risque d'accroître les besoins de gamètes. Comment vous allez pouvoir vous adapter ?
Il est vrai que s'il y a l'ouverture du don de spermatozoïdes aux femmes seules ou aux couples de femmes homosexuelles, il est certain qu'il faudra recruter un plus grand nombre de donneurs. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il va falloir assurer une prise en charge adaptée à ces situations. Donc il y a tout un mode opérationnel à mettre en place. Et on espère, comme on l'a pour les couples infertiles, un élan de solidarité quant à l'ouverture à ces possibilités de prise en charge qui feront que on espère pouvoir répondre dans des délais les plus corrects. Mais en tout cas, il y a un recrutement plus important et un mode de prise en charge qui doit être bien organisé avant d'envisager cette possibilité.
Nathalie Rive, pour avoir plus de renseignements, si on veut faire ces dons de gamètes, il y a un site qu'on peut mentionner à l'antenne ?
Alors, vous pouvez avoir ces infos sur le site de l'Agence de la biomédecine ou sur le site de la Fédération des Sécos, donc sécos.fr. Et pour ceux qui sont sur Facebook, on a aussi un compte Facebook des Sécos qui vous permet d'avoir toutes les informations régulières, voire de nous poser des questions.
Et on va mettre tout ça en lien sur la page de La Tête au Carré sur le site de France Inter. Merci à vous, Nathalie Rive.
Merci beaucoup.
Et un grand merci à vous, Agnès Fèvre. À bientôt, j'espère, dans
La
Tête au Carré. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 9 pays pourraient éradiquer l'hépatite C d'ici 2030. Il s'agit de l'Allemagne, du Brésil, de l'Égypte, de la Géorgie, de l'Islande, du Japon, des Pays-Bas, de l'Australie et du Qatar. L'annonce a été faite lors du 2e sommet mondial sur cette maladie organisée au Brésil. L'hépatite est une inflammation du foie provoquée par un virus qui cause 1,3 million de décès par an dans le monde. La B et la C provoquent plus de la moitié des nouveaux cas de cancer du foie selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Laos, la population d'éléphants d'Asie a fondu ces 30 dernières années. Ils sont deux fois moins nombreux. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent trop, ils transportent le bois, ils sont aussi exploités pour le tourisme. Il devient donc inconcevable d'envisager une reproduction, car la longue période de gestation, 22 mois, est trop longue. En tout cas, c'est ce que disent les éleveurs qui refusent de se priver de cette source de revenus. Des chercheurs du CNRS et de Boval Nature ont élaboré des modèles pour voir ce qui pourrait permettre à l'espèce de perdurer, car à ce ce rythme, elle est sérieusement menacée. Il en ressort qu'un congé maternité serait idéal. Il compenserait les pertes financières des éleveurs et assurerait la survie de l'espèce. D'où venait l'albâtre, ce minéral blanc très prisé par les sculpteurs au Moyen-Âge et à la Renaissance? Depuis 2013, un projet scientifique associant notamment le Bureau de Recherche Géologique Minière et le Musée du Louvre entend faire la lumière sur les sources d'approvisionnement de ce matériau. Les chercheurs ont analysé la composition de l'albâtre de 66 œuvres d'art et ont pu identifier 54 gisements britanniques, italiens, espagnols ou allemands. Ils ont aussi mis en évidence des gisements de la partie méridionale des Alpes françaises. La plupart des monuments funéraires de la papauté d'Avignon ont été fabriqués à partir d'albâtre tirés de ces carrières situées à 240 km de là.